Alors, merci d'abord beaucoup de m'avoir invité dans un cadre qui n'est pas celui où je participe habituellement, mais je suis très, au contraire, touché, honoré et content de discuter. J'ai vu à table que ce que j'allais dire allait susciter un certain nombre de réflexions, voire de véhémentes répliques. Et je voulais vous dire que je vais vous parler de science, je vais vous parler de médecine, je vais vous donner l'état des lieux. Et essayer de vous dire ce que, sans faire trop de planification, et donc quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, et peut-être quelles sont les perspectives. Mais je ne suis pas un missionnaire, je ne suis pas là pour vous convaincre que c'est la vérité, que c'est la fin de la médecine et l'histoire de la médecine. Je pense que c'est l'état de la connaissance et c'est les enjeux que se posent aujourd'hui les cancérologues et les malades atteints de cancer. Donc je voudrais vous d'emblée ne pas que vous preniez pas cet exposé comme un message biblique ou mosaïque suivant bon, hein, mais comme ce qui est l'état de la médecine aujourd'hui et les questions que la communauté médicale et scientifique se pose aujourd'hui. Quelque chose qui va vous paraître intéressant, c'est que là, 2500 ans après les philosophes grecs, que 300 ou 400 ans après les encyclopédistes qui ont repris cette idée, la biologie a démontré qu'effectivement tous les individus sont différents. Ce n'était pas une notion très claire pour les médecins et les biologistes en général, qui avaient tendance au contraire à les classer de façon parfois maladroite, et ceci a entraîné un certain nombre de catastrophes mondiales que vous connaissez. Là, la biologie, en séquençant l'ensemble du génome, fait une espèce de tour de force technologique, où la France a d'ailleurs participé, mais surtout montré que nous étions tous différents. D'abord qu'il n'y avait pas de race humaine, que la notion, la dernière race du groupe Homo, c'est Néandertal qui est éteint, et il n'y a pas depuis de sous-arbres. Donc la notion de race humaine n'a pas de support biologique. Et deuxièmement, que tous les génomes de tous les individus étaient différents, y compris ceux-mêmes des jumeaux homozygotes. Et donc, vous êtes unique, vous êtes irremplaçable, vous êtes un espoir pour l'humanité, chacun d'entre vous, et vous ne serez pas remplacé lorsque vous finirez par mourir. Donc, voilà un premier message. Le second message, qui est celui dont je vais vous entretenir maintenant, c'est que, alors qu'on classait les tumeurs d'une façon que je vous expliquerai, on avait quand même la notion qu'il y avait des grands groupes de tumeurs, tumeurs du sein, tumeurs du poumon, tumeurs du foie, etc. Et que c'était comme ça qu'on décidait de l'attitude thérapeutique. Eh bien, cette notion est probablement fausse, et on comprend que la classification des tumeurs est probablement beaucoup plus complexe que. Et peut-être, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui, que même chaque tumeur, chaque cancer du sein, chaque cancer du poumon, chaque cancer du foie est différent l'un de l'autre. Et donc, que ce n'est pas la même maladie. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va traiter chaque malade de façon individuelle, comme j'espère qu'on ne va pas s'embarquer tout de suite dans cette discussion-là qui est sans fin et qui ne se fera pas demain, mais je vais essayer de tracer avec vous les étapes qu'on peut imaginer et commencer par la cancérologie aujourd'hui. La cancérologie aujourd'hui, je vais utiliser une notion relativement triviale, c'est comme si on faisait grossièrement de la confection taille unique, avec la même robe pour tout le monde. Si on prend par exemple l'exemple des cancers du sein, on a, avec des très longs essais thérapeutiques, des combinaisons longues, essayé d'établir quelque chose qui tombe relativement bien et qui marche relativement bien chez environ 60% des malades. Mais donc, on fait, vous voyez que toutes ces charmantes petites chinoises, on donne l'impression d'avoir tout exactement la même robe. Mais si on regarde mieux, finalement, de s'en porter très bien. Si on regarde bien, on voit quand même que certaines d'entre elles sont très au large dans cette robe, et près d'un quart, et que ceci correspond au fait que probablement, actuellement, on surtraite probablement un quart des malades. Peut-être même plus, parce qu'on sait, par des études statistiques, que quand on fait le traitement traditionnel du cancer du sein, qui est de la chirurgie et de la radiothérapie, on va guérir globalement 60% des malades. Mais on ne sait pas lesquels. 40% ont un risque de rechute et vont finir par mourir de leur cancer. On sait depuis un certain temps que quand on fait des traitements complémentaires, de l'hormonothérapie, quand il y a des récepteurs hormonaux, et maintenant surtout de la chimiothérapie chez les femmes en état de recevoir de la chimiothérapie systématique après l'opération, ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante, cette courbe de survie va remonter considérablement, va atteindre 80-85%. Et donc, on va rendre service à 20 à 30% des femmes en leur faisant cette chimiothérapie. Par contre, on ne sait pas auquel on rend service. C'est-à-dire qu'en faisant de la chimiothérapie avec les règles qu'on utilise actuellement, on ouvre le parapluie au large, on dit ça va donner des chances supplémentaires. J'utilise pour mes malades le terme que vous discuterez d'assurance complémentaire avec des traites à payer plus ou moins lourdes. Mais finalement, c'est comme, exactement comme dans l'assurance. Quand vous payez les traites et que la maison ne brûle jamais, vous vous dites « Mais pourquoi j'ai payé tout ça ? C'est quand même dommage. » Et effectivement, on surtraite probablement une grande partie des cancers du sein qui sont déjà guéris et qui étaient déjà guéris du temps où il y avait simplement de la chirurgie et de la radiothérapie. Par contre, on ne sait pas distinguer les malades qui vont réellement bénéficier de cette chimiothérapie. Et puis enfin, il y a, comme sur cette diapositive, les femmes chez lesquelles la robe est trop petite ou trop étroite ou ne tombe pas du tout. Et c'est les malades qui vont résister au traitement et qui, malgré cette chimiothérapie, vont récidiver ou vont rechuter. Donc on aimerait, excusez-moi pour cette diapo que certains vont qualifier de sexiste, aller vers, non pas peut-être de la haute couture, on mettra du temps à y arriver, mais on pourra aller vers ce qui s'appelle actuellement de la médecine de précision pour comparer, disons, à du sur-mesure, essayer de faire de la confection sur-mesure mieux adaptée à chaque individu. Alors ça, c'est une belle idée théorique. Est-ce que c'est en fait le cœur de la discussion, est-ce qu'on a tellement d'autres options? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'on a fait des progrès en cancérologie dans les 50 dernières années? Oui, on a fait quelques progrès, on a changé. Mais finalement, pas tant que ça. Et je vais donner un exemple qui est la survie des cancers du poumon avancés, ceux qu'on ne peut pas opérer, qui ne bénéficient pas de la chirurgie, qui est le seul traitement qui guérit les cancers du poumon, en 50 ans. Voilà, effectivement, si on regarde toutes publications confondues, on a augmenté la survie des cancers du poumon inopérables, étendus ou métastatiques. Mais vous voyez qu'on est passé des simples soins palliatifs dans les années 70, avec l'invention d'un certain nombre de médicaments, en particulier du platine dans les années 70-80, du Taxol, de nouveaux platines. Finalement, on arrive maintenant à faire passer la survie. Alors, c'est toujours meilleur dans les publications que dans la pratique, mais disons que la survie moyenne d'un cancer du poumon à la fin des années 70, c'était 6 mois, et maintenant, c'est, disons, 14 à 16 mois. Et donc, on a gagné un peu moins de 1 an ou 1 an de survie, et vous voyez comment, en rajoutant un certain nombre de médicaments au fur et à mesure où ils sont arrivés, et maintenant, on arrive. Et en même temps, donc, je ne peux pas dire que ce soit un résultat si transcendantal. Premièrement, ça ne fait pas beaucoup de malades. Deuxièmement, c'est bien pour eux qui vivent plus longtemps, mais ils ne vivent pas dans les très bonnes conditions. Ils ont des traitements très lourds, très durs, et qui ne sont pas, disons, dans le confort total. Deuxièmement, voilà la partie de la diapositive. Ceci, ce sont des euros. Je ne savais pas que ces billets existaient, mais certains de mes jeunes collègues liés à l'industrie m'ont dit que oui, ça existe vraiment. Et vous voyez ce que coûte chaque cure de traitement. Chaque cure de traitement. Et vous voyez le prix de ce que ça coûtait dans les années 70, dans les années 80, où l'euro n'existait pas, et ce que ça coûte maintenant. Quelle que soit notre sensibilité politique ou nos émotions, il est clair que nous sommes dans un cadre sociétal et dans une économie qui nous forcera, qui forcera un gouvernement, quel qu'il soit, se poser la question de est-ce que cette année de survie supplémentaire, payer ce prix-là, est-ce que c'est tolérable, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est vers ça que doit aller la société? Alors, pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons, et pas vraiment mon exposé confus, mais comme il y a eu un petit débat, mais c'est pour ça que le vrai moyen, c'est d'essayer d'empêcher d'avoir le cancer du poumon et d'empêcher les gens de fumer, et que c'est sûrement ça la réponse immédiate à apporter, je le conçois tout à fait bien. Mais l'autre chose que montre cette diapositive et sur laquelle je voudrais insister, c'est que vous voyez aussi comment évolue par les essais la médecine qui se fait par addition de drogues et non pas par substitution. Finalement, la façon dont sont conçus les protocoles, qui sont quand même souvent payés par l'industrie pharmaceutique, c'est de faire A, de montrer que B a peut-être une activité, et de faire ensuite A plus B, et montrer que A plus B, c'est mieux que A tout seul. Et le traitement standard devient A plus B. Arrive une drogue C, on regarde si la drogue C peut être intéressante, et c'est de faire A plus B plus C, est-il mieux que A plus B? Et donc, on arrive à des additions de traitement, des additions de toxicité, des additions de coûts, et personne, jusqu'à maintenant, en tout cas, pose la question de savoir est-ce qu'il y a des malades qui sont mieux avec A, des malades qui sont mieux avec B, des malades qui sont mieux avec C, ce serait pourtant en soi une question très intéressante et très profonde, et qui permettrait peut-être de mieux les guérir, et en tout cas, que les traitements soient plus supportables. En tout cas, beaucoup, là j'en fais partie, pensent que la thérapeutique anticancéreuse actuelle aura des raffinements technologiques, fera des petits progrès chirurgicaux, radiothérapiques, mais il n'y aura pas de grands nouveaux agents de chimiothérapie conventionnelle, et je vous dirai pourquoi, qu'on est en train d'atteindre un plateau thérapeutique. Alors on peut espérer qu'il y a encore des progrès à faire, parce que tout le monde n'est pas traité avec les meilleurs traitements possibles actuels, mais est-ce que ce meilleur traitement actuel possible fera des gros progrès dans les 50 prochaines années ? Avec les méthodes conventionnelles, la radiothérapie, la chimiothérapie, beaucoup de gens dont je fais partie pensent que non, et qu'on n'arrivera qu'à des petites améliorations, peut-être un plus grand confort de vie, ce qui est important, mais qu'il y aura, c'est pas comme ça qu'on guérira plus de cancers dans la population générale. On peut améliorer le niveau général des soins, mais on arrive à un plateau de ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'il y a déjà eu une discipline dans l'histoire de la médecine, quelqu'un est bien mieux placé que moi pour répondre, qui s'est trouvé dans cette situation de différence énorme entre ce qu'on connaît en biologie, une explosion de connaissances nouvelles en biologie, un monde nouveau qui s'est ouvert, on a compris pourquoi une cellule devient folle, pourquoi une cellule devient cancéreuse. Globalement, une cellule devient cancéreuse parce que certains de ses gènes sont déréglés par des mutations, peut-être liées à l'environnement, peut-être liées au hasard, et que ces gènes sont de deux catégories. Certains gènes sont comme dans une voiture, excusez-moi encore de cette comparaison triviale, tous les gènes de l'accélérateur, alors comme moi, vous ne savez pas très bien ce qu'il y a entre la pédale de l'accélérateur et les roues, mais vous vous doutez qu'il y a tout un tas d'intermédiaires qui vont de la pédale aux roues, et que pour obtenir le même effet qu'une pédale pied au plancher en permanence, ça peut se faire au niveau de la pédale en laissant le pied dessus, mais ça peut se faire aussi si quelque chose est cassé qui met en permanence le système en activité et empêche et oblige les roues à tourner au maximum en permanence. Et que ça peut se passer à beaucoup de niveaux de ce mécanisme qui est entre la pédale et les roues. Et puis il y a des freins, ce qu'on appelle les gènes suppresseurs de tumeurs ou les anti-oncogènes, dont le rôle est de faire le contraire. C'est quand il y a des feux rouges, quand il y a des voitures de police, quand il y a des croisements, c'est d'arrêter les divisions cellulaires. C'est une cellule cancéreuse, c'est une voiture dont l'accélérateur se bloque progressivement pied au plancher, mais dont les freins cassent également. Et là aussi, entre la pédale de frein et ce qui fait freiner les roues, vous vous doutez qu'il peut y avoir de très nombreux intermédiaires, de très nombreux niveaux où ça peut se passer. Et toutes ces découvertes des oncogènes, des gènes suppresseurs de tumeurs, cette conception nouvelle de la cancérologie, est-ce que ça a eu une influence sur la façon dont on traite les malades jusqu'à maintenant ? Très peu. Extrêmement peu, et la frustration en tout cas de ma vie d'oncologue a été d'avoir été clinicien et chercheur, comme l'a dit gentiment mon ami Marc, mais d'avoir justement été un chercheur passant des heures passionnantes à entendre chaque semaine parler d'une nouvelle découverte miraculeuse, l'effet délétère étant que les journaux laissaient penser ce qu'ils continuent à faire, que ceci serait la voie de la guérison du cancer pour la semaine prochaine ou le mois suivant ou l'année suivante. Et ceci a duré à peu près 40 ans. Et par contre, ma vie de clinicien était ce qu'elle était, avec des moments exaltants, des moments émouvants, des moments touchants, mais globalement, énormément d'échecs et probablement une amélioration globale de la qualité des soins et de la survie, mais pas de grands bouleversements majeurs dans la façon de traiter les malades. Et ceci a été une grande frustration. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui s'est déjà produit dans l'histoire de la médecine ? Oui, je pense que ça ressemble beaucoup à l'histoire des maladies infectieuses, la façon dont était la cancérologie en l'an 2000, avant la médecine personnalisée, se ressemble beaucoup à ce qu'étaient les maladies infectieuses il y a 100 ans, au tournant entre le 19e siècle et 20e siècle. 1900, c'est 25 ans ou 30 ans après les principales découvertes de Pasteur. Pasteur a découvert, non pas tous les microbes, mais a introduit la notion de germes, d'agents pathogènes, et l'idée que ces agents étaient transmis, se reproduisaient, n'étaient pas formés par génération spontanée. D'autre part, qu'il y en avait beaucoup de différents, il en a décrit quelques-uns, pas tous, mais que les maladies pouvaient être liées à des germes différents. Et ça, c'est une découverte fondamentale, c'est une rupture dans le savoir, et en fait, vous comprenez que la principale révolution qu'il y a eu, avant même la découverte des antibiotiques, ça a été de classer autrement la maladie. Et c'était de comprendre que des infections du poumon qu'on mélangeait, qu'on classait dans la même catégorie, mélangeaient à la fois la pneumonie, des infections à tel germe, la tuberculose, etc., et qu'on ne classait pas, qu'on ne distinguait pas, parce qu'on ne connaissait pas, on n'avait même pas la notion qu'il y avait des germes différents à l'origine de ces maladies. Et il a fallu 60 ans pour que, à la fin des années 20 et au début des années 30, Fleming découvre la pénicilline. Et vous savez, quand il a commencé ses travaux sur la pénicilline, par chance d'ailleurs, dans les années 1925, et que c'est devenu en fait un médicament utilisable vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vers 1944-1945. Donc ça vous donne une échelle de temps. D'autre part, Fleming a eu la chance d'abord d'arriver dans un environnement vierge qui n'avait jamais été soumis aux antibiotiques avant, et donc d'obtenir d'emblée un antibiotique à très large spectre, actif sur tout un tas de germes différents, et ayant changé quand même la situation de très nombreux malades dans un temps très court, ayant convaincu l'ensemble des communautés médicales et des malades qu'il fallait faire ça. La cancérologie n'en est pas encore là, et nous sommes quelque part entre Pasteur et Fleming, quelque part entre la découverte des agents responsables de la maladie et de ce que j'appellerais les médicaments intelligents du cancer. Et je voudrais vous rappeler deux notions qui me paraissent importantes. C'est que, premièrement, jusqu'à maintenant, comment diagnostique-t-on un cancer et comment traite-t-on un cancer, comment on choisit le traitement d'un cancer? Eh bien, finalement, ça repose sur un seul examen et deux facteurs. C'est l'examen au microscope, c'est l'anatomie pathologique. On prélève chirurgicalement un morceau de tissu, soit par une opération, soit par une biopsie à l'aiguille ou en ouvrant un peu la peau. Et on regarde au microscope et on a toute une classification ici entre une muqueuse normale et puis des polypes, des adénomes précoces, des adénomes un peu plus tardifs, puis l'évolution vers un vrai cancer, puis l'évolution vers des métastases, vers une diffusion de la maladie, etc. Et finalement, c'est donc le microscope et l'œil et un peu le cerveau de l'anatomopathologiste qui vont premièrement dire si vous êtes cancéreux ou pas cancéreux, c'est quand même un moment important. Et vous savez qu'on peut se tromper. On peut se tromper dans le bon sens en disant que quelque chose de malin est en fait, en classant malin quelque chose de bénin, et ça donne des survies très inattendues qui sont en fait des tumeurs bénignes. Mais on peut se tromper aussi dans le mauvais sens, et tout le monde connaît les histoires où on a dit que c'était bénin et qu'ils se sont révélés ensuite être malignes. Mais ça veut dire aussi que la transition entre bénin et malin, ce n'est pas blanc ou noir, ça peut être quelque chose qui est où il y a des intermédiaires qu'on ne sait pas encore bien distinguer. Et puis deuxièmement, ça ne permet pas de répondre à des questions importantes qui est, est-ce que le malade va récidiver quand on aura enlevé la tumeur? Est-ce qu'il va vivre 6 mois ou 60 ans? Est-ce qu'il aura besoin de radiothérapie? Est-ce qu'il aura besoin de chimiothérapie? Est-ce qu'il répondra à telle ou telle drogue? Et c'est pourtant ça les questions qu'on voudrait maintenant être capable d'aborder et qu'on voudrait connaître. Et depuis longtemps... Fogelstein, dont vous avez entendu parler récemment, par un papier retentissant dans Nature, avait l'idée que toutes ces différentes étapes, cette progression d'un épithélium normal à une tumeur bénigne, puis à un cancer, puis à des métastases, venait d'une succession d'événements génétiques qui, en s'accumulant dans la même cellule, allaient dérégler l'accélérateur, allaient dérégler les freins, allaient faire acquérir ensuite des propriétés différentes, qui sont celles d'échapper au système immunitaire, celles d'être capable d'éroder les tissus voisins, d'envahir les tissus voisins, de passer dans les vaisseaux, d'aller disséminer ailleurs, donner des métastases et puis la mort. Ce schéma est probablement simpliste et est naïf, mais c'est quand même lui qui fonde beaucoup de ce qu'on sait, de ce qu'on pense actuellement et qu'on essaye d'appliquer dans le traitement du cancer. De quoi aurions-nous besoin dans l'idée? Clairement d'une nouvelle classification du cancer. La classification histologique, je vais vous le montrer, est insuffisante et il faudrait la compléter avec d'autres critères basés l'étude des gènes, l'étude des molécules connues dans les cellules, parce que c'est là que réside réellement l'agressivité de ces tumeurs. Il faudrait des nouveaux critères pronostiques, des marqueurs capables de prédire les réponses individuelles au traitement, et puis surtout des nouvelles drogues intelligentes et le moyen de les donner, à la fois pour des maladies thérapeutiques, mais aussi de les donner dans la vraie vie, dans les temps réels, aux vrais malades. Pourquoi est-ce que les drogues actuelles ne sont pas des drogues intelligentes? Les drogues actuelles de chimiothérapie, d'abord, sont très dures à supporter, vous le savez. Et puis, ne reconnaissent pas les cellules cancéreuses, ne tuent pas les cellules parce qu'elles sont cancéreuses, elles tuent les cellules qui se divisent. Et les deux problèmes viennent de là. Premièrement, dans un cancer, et en particulier dans les cancers les plus méchants, certes, il y a des cellules qui se divisent, mais pas tellement et pas tout en même temps. Et donc, quand vous faites des cures de chimiothérapie, vous tuez les cellules qui se divisent, mais vous laissez intactes celles qui ne se divisent pas et qui se mettront à se diviser quand vous aurez arrêté votre chimiothérapie. Et vous êtes obligé d'arrêter la chimiothérapie parce qu'il y a d'autres cellules que les cellules cancéreuses qui se divisent, qui sont les cellules normales, celles de la moelle osseuse, celles de la racine des cheveux, celles des muqueuses. Et vous savez que la chimiothérapie a beaucoup de complications et qu'en fait, on est toujours dans cette balance entre l'efficacité qu'on espère maximale et la limite des toxicités qui est à la limite du supportable. Et ceci explique pourquoi la chimiothérapie a des limites qu'on n'arrivera pas vraiment à franchir. Et on voudrait des médicaments qui reconnaissent réellement ce qu'il y a de différent dans une cellule cancéreuse par rapport à une cellule normale et qui peut être très variable, comme je vais vous le montrer. Alors les points importants, c'est donc le bouleversement des connaissances en termes de pourquoi une cellule devient cancéreuse, et ceci est important, et le fait qu'il y a des changements importants des technologies, et que la génétique, toute la biologie cellulaire, l'imagerie, se sont totalement bouleversées, ont été robotisées et miniaturisées. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un coût accru pour la société, c'est au contraire un gain énorme en temps, en masse d'examens inutiles qu'on n'a plus besoin de faire. Et les performances de ces machines actuelles, de cette robotisation des technologies, est en fait en pratique réelle, au-delà de l'achat de la machine, est un gain énorme et considérable, et en plus rend beaucoup plus valides les comparaisons des résultats obtenus à Shanghai, à New York, à Pékin, parce que les machines sont à peu près les mêmes et ne sont pas fondamentalement différentes, et varient beaucoup moins que l'œil de l'anatomopathologiste ou ce que pense le monsieur qui a regardé au microscope à Pékin, à Shanghai ou à New York. Quand je faisais des cours de biologie cellulaire il y a un certain temps, finalement, toutes mes heures de cours pouvaient se résumer à ça. Une cellule, c'est quelque chose qui est plus entre le rond et le carré, plutôt souvent ovale, qui a quelque chose de rond au milieu, qui est le noyau. Il y a une membrane autour, puis autour du noyau, il y a tout un tas de choses qui s'appellent le cytoplasme. C'est plein de choses, mais on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas ce que c'est. Et finalement, voilà où on en est maintenant, essentiellement par l'étude des cellules cancéreuses, on a compris beaucoup mieux tout ce qu'il y a justement entre la membrane et le noyau. Et ceci est important parce que c'est justement comment une cellule normale est capable de s'adapter à son environnement, comment elle répond au cours de l'embryogenèse, quand le bébé se développe, quand on cicatrise après une intervention chirurgicale ou après une blessure ou une brûlure, comment l'épithélium de la bouche, de l'intestin se repeuple, comment se fait le sang à partir de la moelle osseuse, à partir de signaux qui sont souvent des facteurs de croissance venus de l'extérieur, qui se collent à des récepteurs. Et le grand mystère de la biologie a été longtemps: qu'est-ce qui se passe entre un événement à la membrane, comment est-ce que ça peut être transmis dans le noyau, là où est l'ADN? Et le grand progrès de la biologie, il va ouvert tout un système de cascades, de messagers, de signaux, de relais, qui sont tout ce qu'il y a entre les pédales et les roues, qui transmettent tel signal d'accélération ou d'arrêt de prolifération de la membrane au noyau de proche en proche et de décrypter, non pas l'ensemble, mais de ses connaissances de la cascade. Et montrer que dans les cellules cancéreuses, un certain nombre de gènes de ces cascades étaient mutés, étaient réarrangés, étaient anormaux, et que probablement c'était là les accélérateurs et les freins qui faisaient que la cellule se déréglait. Mais la grande découverte, la plus importante, qui est autour de la notion que je voudrais discuter, c'est le fait qu'on a compris que ce qu'on appelait cancer du sein, ce qu'on appelait cancer du poumon, ce qu'on appelait cancer du côlon, c'est pas une maladie, c'est un mélange de très nombreuses maladies. Et que les anomalies génétiques et les anomalies moléculaires qu'on trouve dans le cancer du sein de tel malade ou le cancer du sein de tel malade peuvent ne pas être les mêmes. Les chemins moléculaires qui mènent à un cancer du sein ou qui mènent à un cancer du poumon peuvent être très différents, aboutissant au même résultat. Par contre, le fait que ça ne soit pas la même maladie explique que le pronostic n'est pas le même, que ça peut, on peut vivre longtemps ou pas longtemps, et surtout qu'on réponde à tel traitement, qu'on ne réponde pas au traitement. Et cette classification qu'on avait autrefois entre deux groupes de malades, ceux qui ont de la chance et ceux qui n'ont pas de chance, on peut être maintenant beaucoup plus sophistiqué, essayer de comprendre pourquoi tel malade peut être guéri par un traitement simple, tu n'as pas besoin de chimiothérapie, pourquoi tel malade a une maladie très agressive, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Eh bien on sait déjà, par des techniques que je ne détaillerai pas de génomique, en regardant simplement ce qui est exprimé dans une cellule, que ce qu'on appelle cancer du sein, c'est au moins 6 maladies, et que ceci est important, parce que par d'une technique, en regardant simplement ce qu'exprime une cellule, avec 70 gènes, une équipe hollandaise s'était largement confirmée dans beaucoup de laboratoires et par des études internationales, et bien vous voyez que les cancers du sein, sans aucun traitement, on peut les séparer en deux, après chirurgie, après radiothérapie, ceux qui sont guéris, et qui ont vraiment un très bon pronostic, et qui ne rechuteront jamais, et qui ne mourront pas de leur cancer du sein, et puis ceux qui ont un pauvre pronostic, et qui ont plus de 50% de chances de rechuter, etc. Et sans détailler, il est intéressant de savoir que la première étude européenne, étudiant 6000 malades, posant une question de médecine prédictive, ou voire de thérapie personnalisée, c'est justement, non pas une question d'alourdissement du traitement, ou c'est peut-on éviter la chimiothérapie en utilisant ces critères-là, au lieu des critères conventionnels du nombre de ganglions envahis, de l'âge des malades, des récepteurs hormonaux, du grade histopronostique. Je ne vous détaillerai pas cette étude, mais l'idée, encore une fois, c'est 6000 malades, dont 3000 Français, qui ont été françaises, qui ont été inclus dans cette étude, et qui est pour montrer si ces critères génomiques sont plus aigus, sont plus pointus que les critères classiques, conventionnels, c'est-à-dire une espèce de score sur l'âge, les récepteurs hormonaux, le nombre de ganglions, etc. Alors, on n'a pas encore les résultats de cette étude, mais elle est suivie régulièrement, et sans dévoiler des grands secrets, je peux vous dire que probablement 40% des chimiothérapies que nous faisons actuellement au cancer du sein sont inutiles. Et que ce score génétique grave auquel... Bon, d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils répondront à la chimiothérapie, mais auquel on ne peut pas les laisser sans traitement après la chirurgie et la radiothérapie, c'est probablement un nombre limité de malades qu'on pourrait maintenant probablement mieux identifier. Ça ne veut pas dire qu'ils répondront au traitement, mais au moins si on restreignait, on peut probablement déjà dans les prochaines années restreindre de 30 à 40% le nombre de chimiothérapies adjuvantes systématiques qu'on fait au cancer du sein. Vous voyez que ce n'est pas obligatoirement une notion d'alourdissement du traitement ou d'aggravation du sort des malades et que ça a des conséquences en médecine pratique. Et quand on continue l'exercice, voilà maintenant les tranches de camembert dans les clés, on classe les cancers du poumon. Vous voyez qu'il y a maintenant un nombre de catégories énormes, que les plus mauvaises, c'est celles qu'on appelle maintenant les triples négatifs, qui sont la tranche de camembert en haut à gauche ici, et que vous voyez que cette tranche déjà est au moins 10 maladies différentes, n'est pas une tranche homogène. Et donc, c'est en allant dans cette complexité, on trouve des anomalies génétiques dont certaines sont relativement fréquentes, mais dont certaines sont rares, et probablement jouent un rôle dans le pronostic de la maladie. Et puis, les gens de Cambridge sont encore allés plus loin, on sait qu'en ces 1000 tumeurs du sein, et ces 1000 tumeurs du sein se sont révélées toutes différentes, et c'est là la notion que peut-être tous ces cancers sont différents. Ça ne veut pas dire que toutes ces mutations sont importantes. Certaines arrivent peut-être par hasard, certaines arrivent peut-être... et ça ne veut pas dire qu'il faudra cibler chacune de ces mutations dans les traitements futurs, mais ça donne quand même la notion d'un certain niveau de complexité qui n'est pas celui auquel on est à l'heure actuelle. Alors, maintenant, je vais aborder enfin ce point de ces nouveaux médicaments ciblés. Alors, le premier dont je voudrais parler, dire quelques mots, c'est ce qui s'appelle le Glivec, et qui est ce que j'appelle la première drogue du 21e siècle, qui est commercialisée sous le nom de Glivec par Novartis, et qui s'appelait le STI-571 ou l'imatinib. Comment trouvait-on autrefois des drogues anticancéreuses? Eh bien, c'est des très beaux exemples. Les dernières grandes drogues trouvées, de chimiothérapie trouvées, ce sont les taxols, qui ont été les taxanes, le taxol et le taxotère, qui ont été trouvés en France par un chercheur qui s'appelle Pierre Petier, que j'ai très bien connu et qui était un ami très cher. C'était un chimiste qui s'intéressait beaucoup au cancer, mais qui ne connaissait pas la biologie du cancer, qui ne connaissait pas les découvertes dont je vous ai parlé. Par contre, il s'intéressait beaucoup à la nature, et il s'intéressait en particulier à une plante qui s'appelle l'if, qui est un arbre superbe, et Jules César, dans la guerre des Gaules, signale déjà que cet arbre, c'est des grands arbres qu'on trouvait souvent dans les cimetières, peut-être pas à l'époque de Jules César, quand on attache les chevaux le soir à ces arbres, pendant la nuit, on les retrouve morts le lendemain matin. Et en fait, ils ont rongé l'écorce, et il y a un poison violent dans l'écorce de ces arbres, et ce poison a été isolé, c'est le taxol qui est, il se révèle à un poison violent si on en prend trop, mais surtout une très intéressante drogue anticancéreuse. Mais comment on a trouvé ça? C'est en testant des milliers et des milliers de composés chimiques, parce que les chimistes ont plein d'imagination, branchent des radicaux dans tous les sens, puis donnent ces drogues au hasard, à screener, à cribler, dans des systèmes, sur des cellules en culture, sur des lignées tumorales, sur des souris qui ont des cancers de souris, mais qui sont différents des cancers humains, parce qu'elles sont toutes génétiquement identiques, et ceci appuie, ça passe chez l'homme, dans des phases 1, des phases 2, des phases 3, et ceci aboutit en 60 ans à mettre sur le marché, à utiliser environ 40 médicaments actifs, qui sont la base de la chimiothérapie actuelle. C'est un système extrêmement aléatoire, extrêmement coûteux, extrêmement long. Alors, juste un mot sur Petier et le taxol. L'histoire est intéressante parce que quand on a essayé de purifier le taxol dans les années 60 de l'écorce de l'if et qu'on a obtenu quelques milligrammes de taxol pour montrer que ça avait des propriétés anticancéreuses, on a essayé de calculer ce qu'il faudrait pour traiter un malade. Et pour traiter un malade, il faut abattre 3 arbres. Et c'est des arbres qui mettent 200 ans à grandir, qui est dans une espèce en Californie. Et donc, il faudrait dépeupler totalement toute la Californie. Et puis, la complexité de l'extraction biochimique du taxol à partir de l'écorce de l'if était quelque chose d'extraordinairement coûteux, d'extraordinairement compliqué. On pensait que le taxol ne serait jamais un médicament. Et Petier, de façon intéressante, s'est intéressé à la feuille, qui sont des épines, des petits piquants, mais qui sont en fait les feuilles de l'if, et qui contiennent un précurseur qui s'appelle le DAB, qu'il a isolé, qu'il a identifié, et seule l'écorce, et non pas la feuille, s'est transformée, ce précurseur, ce DAB, de pré-taxol en vrai taxol actif, alors qu'elle reste à l'état de DAB dans la feuille. Il était français au CNRS et donc peu au courant, il a mal breveté son invention. Il a su faire au laboratoire, non pas la synthèse du taxol qui est compliquée, mais la dernière étape, la transformation de ce DAB en taxol en laboratoire, qui était à la fois beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable et beaucoup moins cher. Mais ce brevet a été contourné et ça a fait la fortune de Bristol Myers Squibb, qui a utilisé le taxol comme anticancéreux et a gagné énormément d'argent avec ça. Petier, qui était très intelligent, a toujours pris son DAB, s'est mis à brancher d'autres radicaux pour obtenir des produits qui, eux, n'existent pas dans la nature, pour savoir si certains seraient plus puissants que le taxol. Il a obtenu le taxotère, qui n'est pas, à la contraire du taxol, un agent naturel, mais qui est un produit hybride, puisqu'à partir d'un précurseur naturel, il y a des branchements artificiels. Là, il l'a bien breveté et fait des progrès. Ceci a fait la fortune de Ron Poulin-Grorer, puis Sanofi, mais va tomber bientôt dans le domaine public. Voici les dernières grandes drogues trouvées. Mais les laboratoires ne cherchent plus dans cette façon-là parce qu'ils trouvent que c'est un système trop long, trop coûteux, trop peu performant, et risquer des milliards de dollars dans des systèmes comme ça, ça n'est plus... Actuellement, le système est renversé. Et donc, on recherche des anomalies des gènes, on essaye de comprendre en quoi ceci est important et de trouver les fonctions qu'ont ces gènes et pourquoi une mutation ou une anomalie de ces gènes va perturber soit l'accélérateur, soit les freins des cellules. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on va se tourner vers le biochimiste et on va dire « Monsieur, voici la molécule, on peut faire configuration tridimensionnelle de ces molécules qui montrent des creux, des trous qui sont souvent des sites enzymatiques. Fabriquez-moi un médicament, une molécule chimique qui sera capable d'aller exactement se nicher là, de bloquer ce creux de la molécule et donc bloquer la fonction enzymatique qui est l'activation du message divisez-vous, divisez-vous, divisez-vous et empêcher l'action cancérogène, l'action de la molécule. Et la première drogue trouvée de cette façon-là, c'est le Glivec. Je vais aller vite sur le... Il y a une maladie qui s'appelle leucémie myéloïde chronique, dans laquelle il y a une translocation, une anomalie des chromosomes, qui amène un morceau du chromosome 9 sur le chromosome 22 et l'inverse. Et cette translocation amène tête à tête, tête bêche, deux gènes qui normalement se trouvent de façon très différente, très lointaine sur le génome. Ceci amène à la constitution de protéines hybrides qui est en fait liée d'une partie qui vient d'un oncogène qui s'appelle Abelson sur le chromosome 9 et d'un gène qui s'appelle BCR sur le chromosome 22. Et cette molécule hybride, c'est un mauvais transmetteur, elle est activée tout le temps, elle est hyperactivée et c'est elle qui rend les cellules folles dans la leucémie myéloïde chronique. Sachant la conformation de la molécule, sachant où était l'activité enzymatique, on a pu trouver un inhibiteur qui inhibait précisément la fonction, c'est une kinase, c'est une phosphorylase, c'est une enzyme qui phosphoryle des protéines. On a pu inhiber cette fonction avec des résultats très spectaculaires dans la leucémie myéloïde chronique, c'est maintenant le traitement de référence de la leucémie chronique, et aussi dans un sarcome, parce que rare, avec des tumeurs qu'on n'arrivait pas à contrôler, et qui ont aussi un oncogène qui est activé, qui ressemble à Abelson, et ces tumeurs, qui sont des tumeurs rares, peuvent maintenant, et qui étaient très résistantes à toute la radiothérapie et la chimiothérapie, qui donnaient d'énormes tumeurs du ventre qu'il fallait opérer, réopérer, et les malades finissaient de mourir par occlusion, elles fondent de façon extraordinaire grâce à ce médicament, qui est maintenant le traitement. Qu'est-ce qui serait arrivé si cette molécule avait été découverte il y a 40 ans et avait été soumise à des essais de phase 1, à des essais de phase 2, à des essais de phase 3? Si les gens, si personne n'avait inclus dans ces essais, elle ne serait jamais arrivée en phase 3. Et en phase 1 ou en phase 2, si personne n'avait inclus par hasard un malade ayant ces maladies rares, jamais personne n'aurait trouvé cette activité extraordinaire, mais très limitée à un type d'anomalie génétique, et personne n'aurait trouvé qu'il s'agissait là d'un médicament extrêmement efficace, extrêmement intéressant, mais qui a une activité limitée à quelques anomalies moléculaires très particulières. Mais donc le Glivec n'aurait jamais passé tous les tests précliniques et même s'il l'avait fait, il n'aurait jamais été développé comme un médicament susceptible de gagner de l'argent dans des essais conventionnels de phase 1, de phase 2, il ne serait jamais devenu un médicament de phase 3. Et donc ce qui est déjà changé, c'est que le processus du développement des drogues depuis 2010 est complètement changé puisqu'on recherche des nouvelles tumeurs, des nouvelles classifications, des nouveaux facteurs de réponse. Et les essais qu'on mène actuellement ne sont plus des essais dans le cancer du sein ou des essais dans le cancer du poumon, ce sont des essais qu'on essaye de mener sur des populations qui sont enrichies en une anomalie moléculaire. Si vous voulez, on essaye de dire, eh bien, on traite non pas 10 000 cancers du sein, mais 10 malades, et c'est dur à trouver, qui ont telle anomalie moléculaire avec un médicament fabriqué spécialement pour corriger cette anomalie moléculaire. Et on mène des études de cette façon-là. Alors, je vais vous montrer des exemples de succès de ces maladies. Je vais aller vite. Dans le cancer du poumon, qui est un des plus grands tueurs par cancer, dont j'ai déjà tué par hasard, une équipe japonaise a montré que 3% des cancers du poumon, 3% c'est vraiment pas beaucoup, a une anomalie d'un gène qui s'appelle ALK. Et en plus, c'est souvent des femmes et c'est souvent des non-fumeuses. Vous voyez, c'est une migration pas juste. Et il y a une anomalie, donc chez 3% des... Or, un laboratoire qui est Pfizer avait déjà dans son frigidaire un médicament dont ils savaient que c'était un anti-ALK, mais qu'ils avaient essayé de développer dans une autre indication, parce que c'est aussi un anti-MET qui a un autre oncogène. Et ils avaient trouvé que ce serait trop cher, que ce n'était pas un bon agent, et ils ne l'avaient pas développé. Quand ils ont lu la publication japonaise sur les 3% de malades répondant à ce médicament qui s'appelle le crizotinib, ils ont ressorti du frigidaire ce crizotinib, et entre les États-Unis et le Japon, on montait un essai très inhabituel où on a screené 3000 cancers du poumon pour trouver 80 malades qui avaient cette anomalie de ALK et à qui on a donné le crizotinib. On a eu un exemple d'essai tout à fait invraisemblable, c'est que même en phase 1, non, j'en suis pas encore à l'essai. Même en phase 1, là, c'est des courbes que je n'en ai pas l'habitude. Chaque malade est marqué par un... Et c'est la réponse de chaque malade individuel. Vous voyez que pratiquement, si exceptionnel, cancer du poumon, tous les malades répondent, qu'il y a très peu de malades qui progressent sous ce médicament quand ils ont l'anomalie de ALK, et que beaucoup répondent beaucoup, et même certains ont des réponses complètes qui durent plusieurs années. Mais après ces années, même ces malades-là se mettent à rechuter parce qu'il y a d'autres anomalies moléculaires et il y a déjà des médicaments de seconde génération, d'autres anti-ALK plus performants qui permettent de rattraper ces malades. Alors voilà un premier exemple qui vous montre que c'est vrai qu'il y a des médicaments qui font des choses dans des toutes petites populations hyper sélectionnées. Et puis, est-ce que c'est éthique de faire un essai de regarder juste ALK chez 3000 malades et de dire à 97% des gens, écoutez, non, on n'a rien trouvé, au revoir madame, au revoir monsieur, on n'a rien pour vous. Non, on doit aller vers des stratégies où il faut prendre en charge, la société aura bien à prendre en charge les 97% qui n'ont pas l'anomalie. Et je pense que c'est une raison pour aller vite vers des séquençages complets du génome parce qu'on trouvera d'autres anomalies, on inventera d'autres médicaments. Et ces gens pourront espérer bénéficier dans les années qui viennent, peut-être d'autres progrès thérapeutiques. Et je vais vous en donner un autre exemple. Dans le mélanome malin, qui est une maladie de la peau qui peut être opérée si elle est prise suffisamment tôt et qui peut être guérie par chirurgie si la chirurgie est suffisamment large. Mais si cette maladie s'étend, en particulier si elle donne des métastases, c'est un très mauvais cancer. C'est un très mauvais cancer et pratiquement rien ne marche. Et vous savez que c'est un cancer de très forte mortalité. Or là, il y a quelque chose de curieux, c'est dans le mélanome malin, la moitié des malades, 50% des malades, ont une mutation très précise d'un gène qui s'appelle BRAF, qui est dans une des voies de signalisation qui transmet des signaux entre la membrane et le noyau. Et ce gène s'appelle BRAF, et la mutation, ce qui est intéressant, est toujours la même chez tous les malades, c'est une mutation qui porte sur un acide aminé de la protéine produite par le gène, 600, et beaucoup de gens ont essayé de fabriquer des anti-BRAF, mais pas ciblés sur cette mutation. Et un petit laboratoire, immédiatement racheté par Roche, a publié un médicament qui se met exactement dans la boucle qui porte liée par cette mutation, qui va justement interférer ici avec le site d'action, voilà le médicament, qui se met dans cette poche de la molécule et qui inhibe l'action de la molécule. Ce médicament porte le nom barbare de vémurafenib. Et ce vémurafenib, c'est Roche qui a mené les études, a montré pour la première fois dans le mélanome, mais seulement chez les 50% de malades qui ont la mutation, il est totalement inactif chez les autres, a montré des choses que je n'avais jamais vues, c'est là-dessus que je suis parti à la retraite, mais quand même je l'ai vu dans ma vie, a montré que pratiquement tous les malades répondent. Dont des réponses complètes, répondaient très vite, répondaient avec des réponses complètes, et quand on m'a montré pour la première fois des PET scanners, ce tableau avec un certain nombre de malades, des malades ayant des réponses complètes, et puis un PET scanner montrant des régressions en 15 jours de métastases du foie, des métastases du poumon et des ganglions, c'est des choses que je n'avais jamais vues et je suis heureux de l'avoir vu. Par contre, c'est pas si merveilleux que ça, parce que quand on a essayé de faire des essais avec, on s'est aperçu que certes tous les malades répondaient, mais qu'au bout de 6 mois, ils se mettaient tous à récidiver et que donc la survie n'était pas vraiment augmentée. Et la façon dont ils rechutent, vous ai montré sur cette diapositive, c'est positif qui n'est pas gay, mais je voudrais vous commenter quand même. C'est que voilà la peau d'un malade avec plein de métastases cutanées que vous voyez. Et vous voyez qu'après 1 mois de ce vémurafenib, il est complètement nettoyé. On dit que c'est une réponse complète. Il n'y a apparemment plus rien nulle part. Et même si on fait une biopsie, on ne trouve plus de cellules cancéreuses. Et vous voyez que 6 mois après, il a rechuté. Il n'a pas rechuté dans un endroit où il aurait pu y avoir une nouvelle mutation. mais ils rechutent partout dans tous les sites initiaux. Là, je pense que le message, c'est que oui, ce sont des médicaments très intéressants, ce sont des médicaments ciblés. Vous voyez là, cette chaîne de, eh bien, il y a des mutations en dessous de BRAF, enfin, en particulier à MEK et ERK, et on a déjà des médicaments anti-MEK et qui rattrapent des réponses et qui redonnent des réponses complètes chez les malades qui ont rechuté, et que maintenant on fait déjà des combinaisons entre RAF, entre le RAF et MEK chez ces malades, et que le taux de réponse n'est pas parfait, mais meilleur. Et je ne vous parlerai pas d'immunothérapie, mais il y a beaucoup d'éléments pour montrer que les combinaisons de traitement, d'agir sur plusieurs voies. Voilà. Ceci pour vous montrer qu'il y a des voies qui seraient intéressantes d'inhiber et ces combinaisons seraient intéressantes. On ne peut pas les faire parce que ce sont des laboratoires différents qui ont fabriqué ces produits. Et voyez que dans le monde, il existe un essai intéressant qui combine deux médicaments d'AstraZeneca et de Merck agissant sur deux voies différentes et qui a un accord pour que quelques malades reçoivent cette combinaison qui semble particulièrement intéressante. Mais globalement, en France en tout cas, et en Europe globalement, ça n'est pas possible. Et donc, ce qu'on voudrait faire, on ne peut pas le faire dans les conditions actuelles. Il faut des stratégies intégrées, je vais passer très vite. En France, ce qu'on fait, ce que fait Fabrice André à l'IGR dans le cancer du sein, c'est organiser un essai qui inclut Lyon et 1800 centres anticancéreux, dans lesquels on ne fait pas un séquençage complet, mais on cherche des mutations rares. Et l'importe, donc on essaye tout un tas de médicaments correspondant à ces mutations. Au lieu de donner les médicaments au hasard, parce que le médicament est là, on essaye de le donner à ceux chez qui ça a une chance de marcher. Et le message, c'est qu'il y en a deux. C'est que premièrement, certains malades répondent, y compris des réponses complètes, alors qu'ils ont reçu jusqu'à 7-8 lignes de chimiothérapie. Premièrement, ces 7-8 lignes de chimiothérapie sont inutiles et qu'on pourrait s'en débarrasser. Et ceci est intéressant, c'est l'essai Saphir dont certains d'entre vous ont entendu parler. Et le plus intéressant de l'essai Saphir, qui répondra à l'une d'entre vous, c'est la courbe d'inclusion des malades en fonction de ce qui a été prévu. Quand on fait un essai thérapeutique, on prévoit qu'un certain nombre de malades acceptera d'entrer dans l'étude, beaucoup refuseront, et en général, on fait une courbe, qui est cette courbe-là, qui est le nombre d'inclusions prévues. Voilà ce qui s'est passé avec l'essai Saphir dans 1800, c'est-à-dire que c'est la première fois, et je l'ai vu aussi de mon vivant, où le nombre de malades qui veulent être inclus dans l'étude est très très supérieur à ce qu'on attend. Alors en général, c'est en dessous, ça traîne pendant des années. Qu'on a... Ici, les gens veulent être traités comme ça parce qu'ils ont l'impression qu'on leur offre réellement une chance alors que les 8 cures, les 8 lignes de chimiothérapie qui leur ont gâché la vie, n'ont rien fait de particulier. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre aussi en considération. Et il y a des essais dont je vous passe. Et je pense que tout ceci pourrait aboutir à des projets qui devraient être mis dans des banques de données communes pour arriver à des algorithmes en disant il y a telle mutation, telle mutation, telle mutation. Eh bien, ceci devrait conduire à donner tel traitement, tel traitement, tel traitement, arriver à des combinaisons différentes. Je voudrais quand même rapidement vous dire, c'est mes dernières diapositives, et j'espère que vous me pardonnerez si j'ai été long, mais je voudrais bien que vous compreniez ça. Il faut absolument utiliser les traitements de drogue, des combinaisons de drogue et pas une seule drogue, ce qui pose des problèmes. Il faut changer les règles d'enregistrement, il faut convaincre les laboratoires, il faut faire autrement. Et je pense, je le dis tout de suite, que c'est les associations de malades, comme dans le sida, qui ont fait les trithérapies, qui obtiendront ça, et que ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas les laboratoires qui ne voudront jamais, et ce n'est pas les médecins qui sont quand même au service des laboratoires. Il faut que ce soit des malades qui le réclament et qui comprennent donc de quoi on parle. Qu'il y aura des résistances, il y aura des réveils de drogue, il y aura des drogues, il faudra probablement retraiter les malades. Et qu'en fait, l'enjeu de tout ça, c'est non pas de guérir le cancer, c'est d'en faire une maladie chronique, ressemblant au diabète, ressemblant à l'hypertension artérielle, ressemblant à un certain nombre de maladies chroniques. Deuxièmement, ce que je vous dis n'est pas limité au cancer. Probablement, cette situation du démembrage des maladies, c'est la même chose dans la maladie de Parkinson, où là, le métabolisme de la dopamine, je ne rentrerai pas en détail, mais on peut imaginer qu'il y a des mutations au niveau de tel récepteur, de tel transporteur, et que le Parkinson, c'est un mélange de 50 maladies. L'Alzheimer, il n'y a pas un mécanisme de dépôt des substances amyloïdes dans le cerveau, mais probablement 36, et que probablement ce sont des médicaments ciblés qui, qu'on décrira une à une ces maladies, iront inhiber telle et telle action, iront en effet. Et que tant qu'on traitera tous ces malades, soit par rien, soit par des médicaments en taille unique, on obtiendra les résultats médiocres et peu satisfaisants qu'on obtient. Et probablement, il faudra traiter ces malades longtemps, alors qu'on ne sait pas ce que peuvent donner ces traitements, commencent depuis 2 à 3 ans, donc on ne sait pas ce que vont donner ces traitements, et les toxicités de ces nouvelles drogues, comment elles changeront. Mais probablement, je pense qu'il y aura un bénéfice à traiter les malades par des traitements par la bouche. Actuellement, pour faire ça, tout le monde est omnubilé par le prix des médicaments, et c'est vrai que c'est un énorme problème, et que la stratégie des laboratoires est essentiellement basée là-dessus. Elle n'est pas assez basée sur le coût des technologies, qui, lui, va s'effondrer. Je vais aller rapidement vous montrer qu'il y a maintenant des équipements qui sont capables de faire en 2 heures le séquençage de 10 000 génomes, qu'actuellement, un génome, le séquençage de tout le génome, alors qu'il n'y a pas de marché, c'est environ 500 $, et qu'il y a des courbes, suivant le modèle que vous utilisez, qui montrent que ça se fera pour pratiquement rien sur votre téléphone portable dans quelques années. Et je crois que c'est ça le vrai enjeu social et médico-économique, et que ce n'est pas simplement pour le cancer, beaucoup de parts de la médecine. Le choix des médicaments se fera par des modèles mathématiques et sera personnalisé. Alors, ceci dit, c'est intéressant aussi pour le malade, c'est intéressant aussi parce que chaque malade ne sera plus considéré comme le numéro 4232 d'un essai, mais comme une personne à qui on demandera si elle est d'accord, on informera, et je pense que ça a une certaine réalité. Alors, est-ce que c'est faisable en climat de crise économique? Tous les ministres avec qui j'ai discuté, j'en ai vu 8, de la santé et encore plus de la recherche, disent que c'est très intéressant, mais finalement, on n'a pas les moyens de le faire. Et il faut être équitable, vous allez parler d'équité, et d'ailleurs, il faut que ces machines fonctionnent à Lille, à Marseille, à Toulon, à Brest, il y en a en Sud-Ouest, etc. Or, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est des grandes masses critiques de plateformes. Deuxièmement, combien de malades ont actuellement accès à un établissement, une de ces plateformes, sachant s'en servir et sachant surtout interpréter les résultats? Un médecin, je suis incapable de lire un génome et de dire « il faut donner tel et tel médicament ». Il faut tout un tas de nouvelles disciplines de traitement de l'information, de biomathématiques, de modélisation mathématique pour essayer, à partir de ces anomalies, d'en tirer les conséquences thérapeutiques qui s'enrichiront, qui deviendront de plus en plus pertinentes au fur et à mesure qu'on inclura des malades dans des essais de ce type. Actuellement, c'est quelques cas qui sont spectaculaires, qui ne durent pas très longtemps et qui concernent qu'une petite minorité de malades. Si on pense que ce qu'il faut, c'est traiter globalement l'ensemble des cancéreux comme aujourd'hui, mais pour moins cher, ce qui est quand même clairement la politique des gouvernements, ça aboutit à une chose très précise que font les gouvernements avec les plans cancers, de droite et de gauche, c'est-à-dire ben, c'est emmerdant parce qu'il y a déjà tellement de choses. En plus, vous inventez le Glivec, vous inventez tel ou tel médicament qui coûte cher, qui marche chez peu de malades. Et donc, ce qu'il faut, c'est payer, parce que sinon les malades ne seront pas contents, mais c'est ralentir au maximum l'enregistrement de ces médicaments, la longueur de la mise sur le marché de ces médicaments, etc. Et c'est considérer l'innovation comme une fatalité coûteuse qu'il faut contenir, voire rationner. Et si vous regardez les politiques de M. Sarkozy comme de M. Hollande, elles consistent à ralentir l'innovation, à certes la favoriser partout en parole, mais en tout cas à la disperser, à la diluer, à rendre malheureux tout le monde, et pas à essayer de faire émerger une valeur ajoutée, une espèce de nouvelle culture, de nouveaux métiers, de variables médico-économiques, parce que c'est en fait un marché extraordinaire, si en plus ça n'est pas que le cancer. Mais c'est cette découverte de nouveaux médicaments, cette pêche aux nouveaux médicaments, maintenant qu'on comprend ce que devrait faire un médicament intelligent, pourrait être une source de richesse tout à fait intéressante. Et puis surtout, et ce serait ce que j'essaye de plaider, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aux malades? Ça coûte de l'argent aussi, et ça ne guérit pas. Et ça rend les malades vraiment malades, parce qu'ils vomissent, parce qu'ils perdent leurs cheveux, parce qu'ils doivent aller à l'hôpital, parce qu'ils ont une vie difficile. Donc le slogan de la médecine personnalisée, c'est donner le bon traitement au bon malade, mais c'est aussi ne pas donner de traitement inutile, toxique et coûteux, excusez-moi l'expression, mauvais malade, mais en tout cas aux malades qui n'ont aucune chance de répondre. Et je crois qu'il y a là... Alors, je n'entrerai pas dans ces choses qui sont compliquées, mais peut-être qu'on en parlera dans les problèmes. Je voudrais dire 3 choses encore. Je crois qu'un grand message, c'est qu'aujourd'hui, tous les cancéreux auraient intérêt non pas à se faire traiter comme ça, il faut encore se faire traiter de façon conventionnelle. Comme il m'a été dit à midi, je le savais, certains traitements marchent. Et donc, il faut d'abord les essayer. Mais je crois que ce qui est important, c'est de conserver du matériel frais congelé Et je crois qu'il faut le faire dès aujourd'hui pour tous les malades atteints de cancer, qu'ils soient traités ou opérés dans une clinique privée, dans un hôpital régional, dans un hôpital de banlieue. Et parce que c'est les 50% d'entre eux qui rechuteront, le jour de la rechute, ils auront un avantage énorme parce qu'il y aura des nouveaux gènes trouvés, des nouveaux médicaments. Et il faut probablement biopsier les métastases qui peuvent avoir des... Il y aura des problèmes éthiques et légaux parce que très bientôt, les patients et leurs familles, je pense que c'est important, comprendront que ne pas conserver le matériel tumoral, ne pas demander sa génétique et moléculaire peut les priver d'un médicament existant et aboutir à une perte de chance pour leur propre survie ou pour la vie de l'un de leurs proches. Et il y aura des procès et je pense que dans l'état de la législation française, ces malades gagneront. Ils gagneront ces procès et qu'en fait, c'est ça qui bouleversera les pratiques des médicaments. Et je pense que ce serait plus intelligent que les associations de malades comprennent ça et en fassent un vrai demande. Certes, c'est gentil de soutenir partout la recherche sur le cancer, mais autant essayer de soutenir la recherche qui peut bénéficier à certains d'entre eux dans un délai relativement imaginable. Et je voudrais simplement, pour le plaisir, finir là-dessus, pour faire un test de culture générale dans l'assistance. D'où est tirée cette image?
C'est un film de Bergman.
Et c'est quoi? Alors, c'est le septième saut d'Ingmar Bergman. Vous êtes tous bien trop jeunes pour l'avoir vu. C'est un chef-d'œuvre des années 50. C'est très beau, comme vous le voyez. Et c'est l'histoire d'un chevalier au Moyen-Âge, un Suédois, qui rentre en Suède des croisades, qui arrive dans un pays dévasté, etc., mais qui est heureux de rentrer chez lui après des années au loin, et qui est sur une plage désolée à la Suédoise. Il y a du vent, des flots, des vagues, etc. Et arrive un être étrange qui est la mort. Et alors qu'il a fait tout ce voyage pour rentrer chez lui, la mort veut l'emmener. Alors il est quand même embêté, il commence à discuter en suédois en plus avec la mort. Et ce chevalier, en fait, lui a une passion qui l'a aidé dans tout ce voyage, c'est les échecs. Il joue aux échecs, il est sur la plage tout seul à jouer aux échecs. Et puis la mort, finalement, s'intéresse aux échecs et lui dit, bah, écoutez, si vous voulez, on peut faire un marché. On fait une partie et si vous gagnez, je vous laisse. Et le film raconte, avec de grands épisodes, cette partie d'échecs. Finalement, je crois qu'on en est là. La médecine que j'ai faite, on ne comprenait pas, c'était comme jouer contre un grand champion d'échecs qui prévoyait tous les coups que vous alliez faire, qui les déjouait, qui faisait des résistances, qui savait à l'avance toutes les tactiques et les coups que vous alliez utiliser et savait toutes les méthodes pour les rendre vains. Et comme dans ce chevalier est très intelligent, commence à comprendre comment joue la mort, commence à deviner quelques coups à l'avance ce que va faire la mort, commence à prévoir quelques parades. Et je pense que nous en sommes là. Nous sommes au moment où nous commençons à comprendre comment joue l'adversaire, comment enregistrer, et faire des tactiques pour essayer de faire autrement. Alors, ce n'est pas un film à suspense, donc vous regardez-le, je vais vous dire la fin, c'est pas Hitchcock, à la fin, c'est la mort qui gagne, en trichant d'ailleurs. Et en fait, c'est toujours la mort qui gagne. Et à la fin, ce sera toujours la mort qui gagne. Donc je crois que le vrai enjeu à l'heure actuelle, et c'est de ça que nous pourrions discuter, c'est comment faire pour que la partie, et c'est le thème du film, comment faire pour que la partie dure plus longtemps. Voilà, je vous remercie.